Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, Sans détour, 17 avril. On est content, on est de bonne humeur, même s'il pleut aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu 4 journées magnifiques juste avant, puis ça fait du bien qu'il y ait de la pluie aujourd'hui, ça nourrit la nature et les bourgeons n'en éclateront que plus vite. On a une émission chargée de bonnes choses aujourd'hui et de sujets qui vont vous toucher, j'en suis sûr. Nous allons parler avec la docteure Suzanne Leclerc, autrice d'un livre au sujet de Freud, mais c'est un livre qui parle du moment venu. Du moment venu dans le sens de la mort qui approche et parfois un peu dans le sens aussi de l'aide à mourir. On va en parler avec le docteur Leclerc. Et nous avons Kim Auclair qui est consultante en communication. On va parler de l'avenir. Connecté sur l'avenir, une nouvelle série sur Ami Télé qui va nous informer des technologies, de tout ce qui s'en vient pour aider à la réadaptation, à l'adaptation et à l'accessibilité. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Mme Gaétane Lefebvre, directrice générale de l'organisme des Maisons d'à côté dans la Naudière, qui fête son 25e anniversaire. Esther Hardy, bien oui, elle va revenir, elle a fait le tour du monde encore une fois pour nous, et elle va nous en parler à 13h avant. Cependant, on a le plaisir de recevoir Julie Châtelain, notre chroniqueuse bien-être. Tout ça à Sans détour. Julie Châtelain, bonjour.
Bonjour François.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien, merci. Le printemps est avec nous, on commence à avoir les odeurs de la nature qui ressortent hein, quand on se promène dehors. Ça
oui.
sent.
Ça sent très bien avec la fin de semaine qu'on a eue,
oui,
on est gâtés.
Oui, tout à fait. Il faut juste faire attention au vélo hein, et aux trottinettes.
Oui. Oh, tout à fait.
Parce qu'ils arrivent vite parfois. Voilà. Alors, on va parler justement de bien se sentir aujourd'hui. Tu viens nous parler de comment développer l'amour de soi.
Oui, exactement. Parce qu'on en entend souvent parler, là, de plus en plus, on entend le self-love. Et là, on voit ça sur les médias sociaux, tu sais, mais je me suis dit, on va commencer par démystifier qu'est-ce que c'est l'amour de soi, parce que je pense que moi-même, en faisant ma chronique, je me suis questionnée qu'est-ce que c'était profondément l'amour de soi. Et en fait, c'est la capacité à s'aimer inconditionnellement.
C'est la partie difficile.
Oui, c'est ça.
Inconditionnellement.
Inconditionnellement, exactement. Mais ça veut dire, là, c'est que c'est la capacité à s'auto-apaiser, à prendre soin de soi, mais indépendamment de toutes les circonstances. Parce que c'est facile de dire je m'aime quand ma vie va bien, mais lorsqu'il y a des situations
Ou je m'aime quand je fais des bons coups seulement, parce que là, ça suppose que quand on se réalise qu'on s'est trompé ou qu'on a fait du mal à quelqu'un ou qu'on a fait une erreur.
Ben là,
on peut se taper sur la tête, puis l'amour n'est plus inconditionnel.
Exactement. C'est là qu'on voit l'amour de soi, c'est de dire, ben OK, si mon amour de soi, elle va être bien développée, mais c'est que peu importe ce qui va arriver, je vais me respecter, je vais être dans la capacité de me positionner, de percevoir que je suis assez, tu sais, je suis bon, je suis pas bon, plus comme, mais non, moi, ce que je fais, c'est la bonne affaire, je fais de mon mieux, je suis valable, peu importe, et je ne vais pas me dégrader et je ne vais pas me rabaisser en disant justement parce qu'on est humain, on va en faire on va se mettre un pied dans la bouche, on va vivre des situations qu'on va dire, ouais, c'était peut-être pas ma meilleure, mais justement, ça va être juste de dire, c'est pas ma meilleure, sans dire, oh, je suis pas bonne, puis je ne vaux pas grand-chose.
Oui, exact, parce que on est tous humains, on fait tous des erreurs. On se met tous dans l'embarras et c'est d'être capable de rebondir de ça et de ne pas s'y enfoncer. Et ça, c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de déficit d'amour de soi chez les êtres humains que de surplus.
Oui, vraiment. Et c'est pour ça que moi, l'exemple que je donne, bien, c'est au niveau de mon handicap visuel, parce que moi, j'ai vécu, je suis pas la seule qui a vécu ça et qui vit encore ça. Ben maintenant, dans le sens, moi, je le vis plus, là, mais j'ai travaillé très fort sur ça, mais c'est que le fait que j'avais un handicap, je me dépréciais déjà. C'est comme si le fait d'avoir un handicap, d'avoir, on parle tout le temps handicap, déficience, limitation.
Ce que l'on n'a pas, voilà.
Ce qu'on n'a pas, ce qui fait qu'à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes? Mais on n'est pas assez. On est diminué. Et là, ça demande un travail sur soi pour pas rester là-dedans. De dire, OK, mais là, comme si je suis tout le temps moins que les autres, puis il faut que j'en fasse plus pour compenser mon handicap.
Oui. Parce que l'amour de soi, ça a évidemment un lien direct avec nos relations avec les autres. C'est difficile d'avoir une relation saine si on ne s'aime pas soi-même.
Non, c'est exactement. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est vraiment la relation qu'on va entretenir et avec les autres et avec nous-mêmes et de ne pas te mettre sur l'extérieur. Parce que des fois, ce qui va arriver, c'est que là, tout d'un coup, c'est l'extérieur qui va définir est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis assez fine, est-ce que je suis assez bonne. Parce que là, les autres vont me dire que je suis bonne. Mais là, si les autres me disent que je suis pas bonne, ben là, tout d'un coup, c'est que je deviens pas bonne. Alors que c'est l'équilibre entre donner, tu sais, dans le fond, de ne pas couper le lien avec les autres non plus, parce que si on vivait tous dans une grotte, on n'aurait pas de problème.
Mais ce serait très ennuyant.
Ça serait ennuyant, mais on serait pas, on n'aurait pas de défi d'amour de soi. On serait tout seul avec nous-mêmes, on s'aime, ça va bien. Mais lorsqu'on se fait challenger dans des relations, ben, c'est là qu'on est en mesure de dire, OK, ben, quand je m'aime assez, ça va pas être un enjeu. Les relations, ce que l'autre va penser. S'il y a quelqu'un qui me regarde, comme moi, je me déplace avec une canne blanche, je ne suis pas la seule. Toi aussi, je pense que tu te déplaces avec une canne
blanche. Oui, tout à fait, exact.
Bon, mais moi, je ne vois pas le regard des gens. Je ne les vois pas. C'est mes amis, c'est les personnes qui marchent avec moi qui vont me dire, ah non, mais Julie, tu ne le vois pas, là, le monde, il te regarde. Il y a des gens qui te fixent, des gens qui te dévisagent.
Moi, je sais que c'est très bien la canne blanche parce que ce qu'on me dit, c'est que, hey, François, les gens se tassent devant toi.
Exact.
Et tant mieux, comme ça, ça m'évite de faire des rencontres que je ne voulais pas faire.
Ben non, c'est ça, sauf que là, c'est que des fois, si on focus trop sur ce que les autres vont penser, ben là, c'est comme si, ah, ben là, les autres me regardent de travers. Mais moi, quand je marche, les gens se tassent. Des fois, on me fait des haies d'honneur. Moi, j'ai pas l'impression qu'on me regarde croche. Après ça, c'est les autres qui vont me dire, ouais, tu sais, il y a des gens qui peuvent te regarder croche. Mais c'est pas grave. Ça me définit pas. Ça fait pas
exact.
Parce que ça reste qu'on est des humains. Et oui, il y en a qui vont faire, eh, c'est bizarre ou qu'est-ce qui se passe? Elle a une canne. Ben, après ça, moi, je continue à être la personne que je suis. Et quand j'arrive chez nous, ben, je me dis pas, ah, oh, ben là,
Ben, oui, pas. En fait, ça ne se réduit pas non plus qu'on est au seul fait qu'on a une canne blanche. Là.
Ça, c'est
une caractéristique parmi beaucoup d'autres.
Hein? Beaucoup d'autres, exactement. Puis parce que l'amour de soi, elle va se construire en premier lieu quand, en fait, là, c'est en général, c'est au niveau des parents, mais tu sais, on n'a pas de parents, biologiques, ça peut être avec une tante, une grand-mère. En fait, c'est un lien affectif qu'on va développer. Et souvent, c'est la différence entre je pleure, mon parent vient répondre à mon besoin. Qu'est-ce que ça fait? C'est que je suis en mesure de développer un sentiment de « Ah, je suis assez important parce qu'on vient répondre à mon besoin. »
Oui.
Donc, il y a une autonomie affective qui va se développer. Mais ça, là, ça va permettre de l'auto-apaisement. Ça va être au début de la construction de l'amour de soi. Bon, malheureusement, et c'est pas tout le monde qui ont...
Les milieux sont pas toujours nourriciers dans ce sens-là.
Oui, mais des fois, c'est même pas nourricier, c'est qu'il y a ces exemples. Il y a une personne que je connais, ses deux parents sont sourds, mais lui, il est entendant. Ben, il a passé toute son enfance à pleurer, mais sa mère l'entendait pas tout de suite, son père non plus. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est que lui, il a appris il a intégré, on répond pas à mes besoins, donc je suis pas important. Mais c'était pas malicieux
de leur part, exact, c'était circonstanciel.
Mais non, exactement. Donc, c'est pour dire que des fois, oui, au niveau de l'handicap, Il y a des situations comme ça qui vont arriver, qui vont être un petit peu plus un défi, que ça soit pour comme je disais, au niveau de l'handicap visuel, exact. Mais ça peut être au niveau de toute forme d'handicap.
Pour en venir à développer un amour de soi, je lisais dans tes notes, il y a quatre conseils que tu nous donnes.
Oui, exact. Hein?
Exact. C'est sûr, c'est pas comme une recette de gâteau, mais c'est une piste pour aller dans la bonne direction.
Oui, mais en fait, c'est presque comme une recette de gâteau parce que c'est comme en ordre.
Oui.
Donc, le premier conseil, là, c'est de reconnectez-vous à votre être authentique. Ça veut dire une reconnexion à mon profond intérieur. Mais là, des fois, on dit, ouais, mais OK, c'est bien compliqué, ça. Mais c'est parce que, justement, si j'ai pas une vraie connexion avec mon moi-même, c'est la base de l'amour de soi. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont même pas conscience de c'est quoi leur valeur profonde. Alors, le premier exercice, c'est reconnecter à nos valeurs. Ça veut dire qu'est-ce qui va me guider dans mon quotidien? Ça veut dire, par exemple, ben moi, c'est le respect. Moi, j'ai besoin d'avoir des relations respectueuses. OK, parfait. Bon, ça, c'est ma première valeur. Et là, je me fais une petite liste de mes valeurs. Ça, c'est le premier exercice qu'on peut faire. Je tiens à dire que déjà ça, c'est difficile. Fait que vous pouvez trouver des listes de valeurs. Mm-hmm. Vous allez sur Internet, vous dites des listes de des valeurs, là, une liste de valeurs. Et là, des fois, ça va nous aider de dire
oui.
Ah, ça, c'est important pour moi. Mais des fois, on ne le sait pas comme ça, là.
Parce que si on veut développer l'amour de soi, il faut d'abord comprendre qui nous sommes pour nous aimer.
Ben, exact. Exactement, c'est ça. Donc, tout ça, c'est le premier exercice. Puis le deuxième, c'est identifier nos stratégies relationnel. Donc là, c'est vraiment se questionner parce que en fait, on a tous développé des stratégies pour survivre. Tout le monde, on fait ça. Donc, c'est dire, c'est quoi nos attentes vis-à-vis les autres? C'est est-ce qu'on a des problèmes de communication? Tu sais, c'est vraiment aller se questionner à la base pour voir comment c'est quoi nos modes relationnel, et à ce moment-là, on va voir comme les gens qui donnent énormément aux autres, qui sont très sensibles aux besoins des autres, qui vont dépenser énormément d'énergie pour que les autres soient bien, mais finalement, ils mettent pas d'énergie vers eux. Donc ça, des fois, c'est comme juste faire un, de dire, ce que je donne à l'autre, ça voudrait dire qu'éventuellement, je pourrais être en mesure de me le donner. Ça serait ça comme l'objectif.
Oui, ça me fait penser à quelque chose qu'on m'a déjà dit, sois ton meilleur ou ta meilleure amie.
Oui.
Si ton meilleur ou ta meilleure amie est à côté de toi et que tu vis une situation difficile ou tu as fait une erreur ou tu es challengé, quel conseil qu'on te donnerait? Puis ton meilleur ou ta meilleure amie, elle ne commencerait pas à te taper sa tête, ce ne serait pas une amie.
Non.
Voilà.
Non, ben non.
Alors, c'est de se parler à soi-même d'une façon qui est bienveillante, si je peux dire.
Exactement, c'est ça. Et le troisième conseil, c'est de s'ouvrir au changement. Tout simplement, c'est de dire, bah ben OK, moi, j'interagis de cette façon-là. Moi, c'est important pour moi d'être là pour les autres. Ben, je ne vais pas arrêter du jour au lendemain à ne pas être là pour les autres. Là. C'est impossible. Dans ma nature, moi, je suis là pour les autres. Parfait. Après ça, je peux-tu juste dire, OK, est-ce que tu peux juste un petit peu tourner ça vers toi? Sans dire que je dois tout changer parce que je vais mourir, mais j'y arriverai pas. Je veux dire, l'humain, on a développé des stratégies de survie, on peut pas nous enlever ça. Donc, c'est juste de dire, qu'est-ce que je peux tourner un petit peu vers moi? Moi, c'est facile de prendre soin des autres. OK, est-ce que je peux juste prendre soin de la même façon envers moi-même? Un petit peu. Donc, ça, c'est le troisième conseil. Qui est quand même assez, assez facile.
Ben, oui, tout à fait. Mais facile, c'est des fois quand on a vécu d'une certaine façon pendant des années et des années,
oui.
Tous les réflexes pointent dans la même direction. Puis si on n'a pas un peu de recul, on va souvent passer à côté sans même le savoir.
C'est ça, absolument. Et quatrième conseil, c'est vraiment de s'écouter pour prendre soin de nous. Souvent, les gens sont comme, OK, mais c'est quoi? C'est comment qu'on fait pour s'écouter? Ben, en fait, s'écouter, là, moi, ce que je donne comme conseil, c'est d'apprendre à se choisir. Puis, un autre conseil, c'est vraiment de ne pas répondre tout de suite. Lorsque quelqu'un va nous dire quelque chose, qu'habituellement, là, tout de suite, on fait oui. Et des fois, on fait « Ah, oh, pourquoi j'ai dit oui? » Parce que je prends soin des autres, donc je dis oui tout de suite.
Oui, on dit oui à tout parce qu'on s'oublie après ça.
C'est ça. Donc, c'est juste de dire « Hey, je prends juste une petite pause. Je prends le temps de laisser descendre. Ça me fait-tu du bien, moi, d'aller là ce soir? » Non, ça ne me fait pas du bien, j'ai pas envie. Ben, le fait que je dise que je n'y vais pas, ben, ça ne fait pas que je ne suis pas fine. C'est parce que je ne le sens pas profondément. J'ai écouté mon besoin. Ça va faire que je vais être plus heureuse. Je vais m'aimer plus. Puis les gens vont éventuellement, ben, ils vont être contents aussi. Les gens qui m'aiment, tu sais, qui ont partie de ma vie, ils vont juste être heureux que je sois heureuse. Là.
Oui, puis si de toute façon, on finit par faire des choses pour les autres, mais dans le fond, c'était pas ça, ben on va le faire en faisant la baboune. Puis là, les autres vont dire, ben, pourquoi t'es venu finalement si t'aimes pas ça ici?
Exact. Exactement. Puis c'est pour ça qu'un autre truc que je fais, c'est que vous pouvez aller chercher aussi une liste des besoins. Parce que ça aussi, ça peut aider de c'est quoi mes besoins profonds? C'est quoi j'ai envie vraiment au niveau de mes besoins? Et ce que ça va faire, mais c'est que des fois, on va se rendre compte qu'on a des attentes que les autres remplissent nos besoins. Donc ça peut nous aider. Fait que c'est pour. Puis des fois, ben là, je dis tout ça, mais ça se peut que ça fasse beaucoup. C'est pour ça qu'il y a quand même des professionnels qui existent.
Qui peuvent nous aider pour être capables d'avoir une démarche. Mais quelqu'un a dit un jour, si tu ne changes pas, tu restes pareil. Alors, ce qui nous arrive ne nous convient pas, ben ça, il faut faire la démarche pour changer des choses. Julie Châtelain, bien, merci beaucoup.
On s'en va
marcher dans les flaques d'eau, profiter du printemps.
Oui, exactement. Merci, François.
Merci, à la prochaine.
OK, bye-bye.
De retour, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Dr. Suzanne Leclerc. Bonjour, docteur.
Bonjour, Monsieur Beauregard.
Vous êtes psychiatre, mais vous êtes aussi autrice et illustratrice. Alors, ça fait beaucoup. et en fait, dans le même livre, vous avez, avec votre complice, Monsieur William Roy, été capable de créer un livre qui est difficile à classer. Je vais essayer de le décrire pour nos auditeurs. Ça ressemble à une bande dessinée, mais ce n'en est pas une. Ça parle d'un sujet qui est sérieux. On parle de la mort. On suit Sigmund Freud, le père de la psychanalyse moderne, dans les dernières années de sa vie, et on parle essentiellement de son état de santé qui va en se détériorant. Freud est décédé d'un cancer de la bouche avec lequel il s'est débattu longtemps. Quand on voit des photos de Freud, on le voit immanquablement avec un cigare à la main, et c'est essentiellement ça qui l'a tué.
Oui.
Et en même temps, dans le livre, on se dit, ben, il devrait arrêter de fumer, mais ça, c'est une autre question. On prend pour lui, puis à la fin du livre, il demande essentiellement de l'aide à mourir, qui est un sujet qui est très actuel. Et là, pourtant, on est en 1940. Et on est content qu'il soit libéré à la fin du livre. Quand je lisais le livre, ça devenait de plus en plus lourd. Puis à la fin, quand il part, on est content qu'il soit finalement libéré de sa maladie.
Tout à fait.
C'est une impression que peut-être d'autres ont partagée dans des circonstances similaires. Alors maintenant que j'ai tout dit ça, docteur Leclerc, la question que j'ai pour vous, c'est pourquoi ce livre?
Alors, ça répondait peut-être à plusieurs envies de ma part. Je suis en fin de carrière, donc j'avais un peu plus de temps dans les dernières années pour me consacrer à un projet personnel de ce genre-là. En parallèle de la psychiatrie, après ma formation comme psychiatre, j'avais fait des études aux Beaux-Arts. Donc, j'ai toujours un peu peint à côté de ma pratique psychiatrique, plus ou moins, je dirais, intensément selon les décennies. Mais donc, j'avais un peu plus de temps. Et il y a aussi autour de 2015-2016, on avait créé un groupe d'entretien, un groupe de recherche et d'études sur l'aide médicale à mourir parce que la loi changeait. Et pour les cliniciens, c'est le jour d'avant et celui d'après. Et celui d'après, on doit offrir des soins qu'on n'a jamais offerts, ni même peut-être envisagé d'offrir. Ceci étant dit, ça concernait l'aide médicale à mourir.
Oui.
Et dans le cas de Freud, il s'agit plutôt, comme je l'explique dans le lexique à la fin, d'une sédation palliative, qui est tout de même une pratique médicale qui se fait depuis fort longtemps.
Oui.
Et qui était possible même avant les changements de loi et de pratiques qu'on a connus au Québec. Mais tout de même, on s'est penché sur toutes sortes de questions, la relation patient-médecin, l'évaluation de la souffrance d'autrui. Comment peut-on évaluer ce que l'autre ressent et vit? Et je trouvais que l'histoire de Freud, c'était une belle histoire. Ça me permettait aussi de revenir sur Freud, qui est un des plus grands penseurs du 20e siècle et qui, à l'époque, il y a une quarantaine d'années, quand j'ai fait ma formation, c'était quand même assez central dans nos études et dans notre formation. Donc, ça me permettait d'y revenir, ça me permettait de réfléchir à la fin de vie de Freud, à sa relation avec son médecin. Et il y a une espèce de pacte qui les unit lorsque le médecin, ce jeune médecin, commence à s'occuper de Freud 11 ans avant son décès et qui lui dit « Vous allez toujours me dire la vérité. »
Tout à fait.
« Et vous ne me laisserez pas souffrir inutilement. »
Parce qu'il faut expliquer, parce qu'on le comprend dans l'histoire, c'est que quand Freud a commencé à avoir des symptômes d'un cancer de la bouche, son entourage l'a en fait maladroitement protégé en ne lui disant pas la vérité.
Exactement. Alors, ça se fait plus de nos jours. Ça ne devrait plus se faire, mais à l'époque, ça pouvait encore se faire. Et Freud s'est senti trahi. Lui, dont toute la vie avait été d'essayer de sa vie professionnelle, d'essayer de découvrir qu'est-ce qui était nos fondements inconscients, de ramener ça à la surface.
C'est une quête de la vérité qui était absolue chez lui.
Absolument. Et donc, voilà que on ne lui dit pas la vérité au tout début, les 5-6 premiers mois de son cancer. Alors ça, c'était pour lui une exigence. Et il l'a posé dès le début de sa relation avec son médecin.
À qui s'adresse ce livre-là? Parce que le format que vous avez adopté, à la fois d'écrire une histoire qui est véridique d'un point de vue factuel, avec des dialogues qui sont ajoutés pour nous aider à comprendre le contexte. Et en même temps, il n'y a pas énormément de textes, mais il y a de très belles illustrations. Mm-hmm. Qui lit ce livre-là? Comme médium, c'est intéressant. Vous auriez pu écrire ça tout du long.
Oui, c'est un roman graphique. Ça se veut, je l'espère, accessible. Je ne m'attarde pas sur des théories psychanalytiques. Il y a un index à la fin pour aider un petit peu avec certaines notions. Et j'ai certainement pas la prétention de vouloir rivaliser avec les grands illustrateurs de la bande dessinée. Mais j'espérais que ce soit accessible au plus grand nombre. Et en même temps que ce soit peut-être une occasion de se souvenir d'où on vient, hein, un devoir de mémoire, d'où on vient dans la clinique plus dans la psychologie, la psychiatrie, comment nos façons de faire ont évolué. Alors, c'était un peu les objectifs de mon livre.
Dans les thèmes, on parle, et d'ailleurs, vous mettez en préface une citation à ce sujet-là, qui, je ne m'en souviens pas très exactement, mais ça dit quelque chose comme quoi, dans la jouissance et la solitude, ce sont les moments où on est vraiment seul. Et quand on parle d'essayer d'apaiser les douleurs de quelqu'un ou mettre un terme à une vie de souffrance, personne ne peut juger la souffrance que la personne qui la vit.
Exactement. Alors, c'est une citation de Paul Ricoeur, qui est un philosophe. C'est extrait d'un article qui s'appelle « Les trois niveaux du jugement médical » et qui dit « La souffrance est avec la jouissance la retraite ultime de la singularité ». Alors, c'est vraiment une clinique, moi je suis pas une spécialiste là, de l'aide médicale à mourir en tant que telle, et je ne suis ni pour ni contre. Par contre, je suis une spécialiste de l'écoute, on pourrait dire, comme d'autres professionnels de la santé d'ailleurs, et J'entends les histoires des patients qui demandent l'aide médicale à mourir. J'écoute ce que les familles ont à dire, ce que les soignants qui dispensent ce soin ont à dire, parce que c'est pas nécessairement facile pour eux. Donc, c'est un peu c'est un ouvrage qui pose des questions. J'espère que c'est des belles questions. C'est à quel moment on peut et doit intervenir dans la trajectoire de soins et de maladies d'autrui, par exemple.
Ce que je retiens, entre autres, du livre, docteur, c'est le fait que l'individu a droit à la vérité.
Oui.
Puis, curieusement, dans le cas de Freud, on pourrait dire qu'il avait le droit de fumer, même si tout le monde lui disait que c'était, et même lui-même le savait que c'était nocif.
Absolument.
Il avait le droit
Absolument.
De fumer, puis il avait aussi le droit de ne pas prolonger ses souffrances.
Absolument. C'est le propos du livre.
Tout à
Alors,
fait.
Il avait droit à sa liberté.
Docteur Leclerc, je vous remercie. Le livre s'appelle Freud, le moment venu. C'est aux éditions La Boîte à Bulles, illustré et écrit par Docteur Leclerc, comme on vient de le dire, et Monsieur William
Roy,
oui,
qui
tout
a
à fait.
Mon, qui est en storyboard et qui a réécrit le scénario.
Bravo. Ben, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour. La science fait des choses extraordinaires et la science permet d'espérer des lendemains meilleurs et pour mieux s'informer sur toutes les technologies novatrices créées au Québec et ailleurs dans le monde pour améliorer la vie des personnes qui vivent des situations d'handicap. Il y a une nouvelle série qui est diffusée sur Ami Télé, ça s'appelle « Connecté sur l'avenir ». Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Kim Auclair. Bonjour Mme Auclair.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Vous êtes consultante en communication web et collaboratrice de la nouvelle série Connectée sur l'avenir. Avant de commencer, on va faire les choses très, très factuelles. La série est diffusée sur Ami Télé. À quelle heure, quel jour?
Comment? Je vais juste vous demander de répéter la question.
Oui, ben, il n'y a pas de problème. Je voulais vous savoir si je vais écouter la série Connectée sur l'avenir.
Oui.
C'est diffusé en ce moment sur Ami Télé ou je peux aller sur le site?
Oui, c'est diffusé actuellement sur Ami Télé, donc sur le site web Ami Télé et directement à la TV, donc sur la chaîne d'Ami TV. Ceux qui veulent consulter la série peuvent aller voir les épisodes qui sont directement sur le site web. Une semaine sont diffusés une semaine avant d'être diffusés à la télévision. Donc, les gens qui n'ont pas pu consulter les émissions directement à la télévision peuvent le voir quand même sur le site web.
Sur le site web, bravo. Et donc, il s'agit de 6 épisodes qui chacun examine un des aspects de l'intervention ou de la technologie qui va nous aider.
Qu'est-ce qui est particulier, en fait, avec cette série-là, c'est qu'on s'intéresse vraiment aux différentes technologies pour différents handicaps. Alors, moi, j'étais participante pour représenter la sourdité, les technologies en lien avec la sourdité, plus particulièrement pour 2 épisodes qui étaient se réadapter avec des nouvelles technologies, mais aussi s'adapter, en fait, de se déplacer. Mais il y avait aussi d'autres thèmes comme remplacer, assister et apprendre. Où est-ce que mes collègues qui ont des handicaps différents que les miens devaient intervenir sur ces sujets-là? Et qu'est-ce qui est particulier, c'est que c'est des technologies qui sont en développement, qui sont en la recherche, qui c'est vraiment partout dans le monde au niveau de l'innovation. Et les documentaires, c'est le documentaire, les chercheurs ont vraiment fait portrait des entreprises qui développent ces technologies-là. Et nous, en tant que participants, on devait écouter les reportages qu'ils ont faits à propos des entreprises et commenter la technologie.
D'accord.
Donc, c'est l'aspect panel entre personnes en situation d'handicap qui était la nouveauté, la particularité dans ce documentaire-là.
Oui, parce que souvent, à la télévision ou ailleurs, on va voir des émissions de contenu scientifique où il va être question de temps en temps de technologies qui vont rendre la vie plus facile ou plus accessible, ainsi de suite, à des personnes handicapées. Mais là, la particularité, c'est que des gens qui vont utiliser cette technologie-là, qui vont en bénéficier, peuvent en témoigner immédiatement.
On a peu de place pour les personnes qui utilisent ces technologies-là. Puis c'est ce que j'ai aimé beaucoup, participer à ce documentaire-là pour commenter aussi. Évidemment, les technologies qui ont été présentées, il y en a qui sont en prototype, il y en a qui sont vraiment dans les débuts. Alors, c'est particulier parce que souvent, les premières technologies, les premiers pas sont souvent des grosses machines, des grosses... C'est très lourd.
C'est encombrant, oui. C'est pas toujours de la technologie qu'on peut mettre dans son sac à dos.
C'est ça. C'est pas. Moi, je me disais, tu sais, comment une personne handicapée, une personne en situation en chaise roulante, par exemple, il y avait des nouveaux modèles de chaises. En fait, de chaises roulantes, mais qui étaient plus debout, qui leur permettaient d'avoir une meilleure posture, pas toujours être assis, mais vivre vraiment plus comme une personne debout. Et la machine en tant que telle était très lourde. Et oui. Moi, je me demandais, ben, tu sais, comment vous allez faire tout ça, mais c'est les débuts. Et dans mon cas, c'était de détecter les sons, la provenance des sons. Donc, quand je me déplace, mon défi, c'est que j'entends pas tous les sons, je sais pas d'où ils proviennent. Alors, la technologie, grâce à la vibration, chaque vibration serait associée à un son. Alors, c'est ça la technologie pour les aveugles. Ben, chaque lieu est automatiquement cartographié avec une voix. Donc, la personne se promène dans la rue et au lieu d'avoir sa canne qui détecte les endroits, ben, elle se fait dire de vive voix, vous êtes ici, vous
D'accord.
êtes là. Donc, c'est toute la différence des technologies qui peuvent apporter, mais évidemment, on est encore dans les tout débuts. Mais oui. C'est intéressant de pouvoir échanger avec différentes personnes, mettre en contact différents handicaps ensemble, puis d'échanger vraiment sur l'avenir des technologies, en fait, puis l'impact des technologies dans notre quotidien.
Parce que c'est vrai que depuis 10 ou 20 ans, il y a eu déjà beaucoup de progrès qui ont été faits du point de vue d'une personne handicapée visuelle comme moi. Tout ce qui est dans un petit téléphone intelligent aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a 20 ans, c'était futuriste d'y penser, mais en fait, c'est ce qui est intéressant avec l'émission, si certaines des technologies ou la plupart des technologies qui sont décrites dans l'émission ne sont pas encore disponibles
non,
grand
ça,
public, mais ça va le devenir.
Ça,
parce que c'est
ça montre.
Oui.
Pardon.
Allez-y.
Ça montre en fait à quel point on en est dans les débuts. On parle, supposons, en lien avec l'intelligence artificielle, en lien avec le développement. C'est intéressant qu'on s'intéresse à notre à l'amélioration des quotidiens, qu'on en soit rendu là, mais il reste encore beaucoup de chemin pour que ce soit des technologies qui soient accessibles au grand public. Donc, toutes les technologies qu'on a développées, qui sont présentées dans le documentaire, il y en a certaines, c'est que ça s'en vient vers quelque chose de plus accessible, mais il y en a beaucoup qui c'est vraiment dans les débuts.
Tout
c'est
à fait.
Quand même.
Une autre chose qui est frappante en regardant la série, c'est de voir qu'au Québec, on est à l'avant-garde. Il y a beaucoup de ces technologies-là qui sont développées ici parce que les recherchistes ont été partout dans le monde. Mais le Québec n'est pas en reste non plus. Il y a beaucoup de choses qui se font ici.
Oui, c'est fun de voir qu'on s'y intéresse. Puis souvent, ça vient, quand on regarde les documentaires, on voit vraiment que ça vient de personnes que, comme moi, c'est un avis personnel, les technologies qui sont les plus intéressantes, à mon avis, c'est ça vient d'une histoire personnelle. Donc, la personne a eu un père qui a manqué, supposons.
Oui. Parce que
il y a une cause pour se mettre dans la recherche pour comment il peut utiliser les technologies d'aujourd'hui pour améliorer, pour s'inspirer de un parent proche a vécu, mais pour comment l'aider. Fait que, oui, comme vous dites, là, à Québec, il y a quand même beaucoup de travail qui se font qui n'ont pas nécessairement été publiés du grand public. Et de pouvoir documenter ça avec un documentaire à faire un reportage, ça les met en valeur.
Oui, parce que c'est vrai quand vous mentionnez ça, c'est souvent le cas dans le domaine de la recherche comme aussi dans le domaine du bénévolat ou des organismes communautaires sont au service des personnes en situation d'handicap et visent à améliorer leur vie. Il y a souvent une histoire personnelle derrière ça. C'est souvent quelqu'un dont l'enfant ou le parent, le frère, la sœur avait telle ou telle situation comme challenge. Puis après ça, ben on se met à ce moment-là plus au diapason des besoins des personnes en situation d'handicap. Puis c'est là où l'ingéniosité puis la technologie interviennent. Alors, dans cette série-là, il va donc être question, vous l'avez mentionné, de plusieurs situations d'handicap, que ce soit comme dans votre cas, la surdité. Il va être question des personnes aussi qui ont un handicap visuel. Il va y avoir aussi les gens qui ont des mobilités réduites.
Oui, mobilité réduite. Donc, on parle avec la mobilité réduite avec des chaises spéciales. Il y en a qui étaient des fauteuils roulants, en fait. Puis, il y en a qui avaient des types d'aide aveugle. Il y en avait une fille qui était complètement aveugle. L'autre, elle a eu un problème d'aveugle. Elle voyait juste d'un œil. Après, il y en a qui sont devenus paralysés aussi. Donc, on a tous des vécus complètement différents. Des histoires complètement différentes à partager, des défis complètement différents aussi. Fait que moi, j'ai adoré échanger avec ces personnes-là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez mentionné entreprise communautaire. Mais dans le documentaire, il y a une entreprise qui avait un esprit beaucoup plus communautaire que les autres. Tu sais, quand on fait des recherches, qu'on invente des nouveaux produits, les entreprises vont avoir tendance à s'approprier
oui.
De tout. Mais quand on dit que dans le documentaire, il y avait une entreprise où est-ce qu'elle encourageait le partage. Alors, c'est comme une personne développe une technologie, mais la technologie peut être
continuée
d'être développée par d'autres équipes. Alors, c'est dans le mode partage, c'était particulier parce que moi, j'ai un côté très business, très affaires. Je me disais, ben c'est quand même il y a une libération du droit, il y a une libération de fait que la technologie ne viendra pas nécessairement de toi, mais c'est intéressant quand même parce que ça peut, selon les différents types de personnes qui interviennent sur ces produits-là, ils peuvent vraiment avancer en communauté. Ça a vraiment capté mon attention, cette mentalité-là.
Ce sont des entreprises qui ont des missions qui sont plus sociales, qui visent plus le bien commun plutôt que de mettre un brevet et de commercialiser un produit. Ben, Kim Auclair, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, l'émission s'appelle Connecter sur l'avenir. C'est une série de 6 documentaires qui font près d'une heure chacun, qui parle des technologies novatrices créées au Québec et ailleurs dans le monde, qui permet d'améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Comme on l'a dit au tout début, c'est disponible sur le site web, page web de Ami Télé. Et donc, on n'a pas à s'en faire si on a manqué l'épisode de la semaine dernière. Voilà. Ben, merci beaucoup, Kim.
Mais ça fait plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
De retour avec Mme Gaëtane Lefebvre. Bonjour, Mme Lefebvre.
Ben bonjour, bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'organisme Les Maisons d'à côté qui fête cette année son 25e anniversaire. Ben, d'abord, bravo.
Ben, merci beaucoup.
Vous êtes Les Maisons d'à côté, on parle de Lanaudière.
Oui, en fait, on est un organisme à mandat régional et on a 2 résidences actuellement, notre actif. Bientôt 3. Et nos résidences, les 2 résidences sont situées à Joliette. Et on offre également un service à domicile là, pour les membres dans le fond qui habitent à la maison et qui rencontrent certaines difficultés, mais qui n'ont pas le désir de venir habiter en résidence.
Et tout ça, donc, votre mandat est de couvrir la région de la Naudière. Parlez-nous un peu des débuts. Il y a 25 ans, vous n'étiez pas là où on est aujourd'hui, là, avec tous ces services, plus les maisons, ainsi de suite. Comment ça a commencé?
En fait, comment ça a commencé, les maisons d'à côté? Tout d'abord, les maisons d'à côté, c'est un organisme communautaire autonome. D'accord. Il y a 25 ans, il y avait un groupe de gens qui habitaient dans la communauté et c'est un groupe de gens qui avaient la sclérose en plaques à l'époque, des gens qui avaient des besoins grandissants. Oui. C'était des gens qui étaient à la limite de devoir être transférés.
Parce que la sclérose, c'est une maladie qui est dégénérative.
Oui,
alors, la situation allait exiger de plus en plus un environnement adapté.
Tout à fait. Donc, c'était des personnes qui étaient pour être transférées éventuellement en CHSLD parce que le besoin était rendu trop grand. Mais c'était des gens qui étaient beaucoup trop jeunes, qui ne se voyaient pas aller vivre en CHSLD. Ces gens-là ont rêvé une maison pour eux. Donc, avec l'aide de la régie régionale à l'époque et de d'autres partenaires également, les maisons d'à côté ont vu le jour, en fait. Fait que c'est vraiment les maisons d'à côté.
C'est un rêve qui est devenu réalité.
Tout à fait, oui, oui.
Parmi ces gens-là, en regardant un peu l'historique, on s'aperçoit que le nom de M. Michel Coutu revient souvent.
Oui, tout à fait. En fait, Michel Coutu, qui est depuis une dizaine d'années le président du conseil d'administration de l'organisme. Mais Michel, il y a 25 ans, lorsque des gens de la communauté ont rêvé les maisons d'à côté, Michel travaillait à l'époque à la régie régionale et il a été mandaté pour aller s'asseoir autour de la table avec ce groupe de personnes-là pour monter le projet qui est devenu les maisons d'à côté. Donc, et puis Michel, c'est quelqu'un qui s'est toujours énormément dévoué pour l'organisme et qui se dévoue également pour d'autres associations. Mais je pense qu'on est peut-être un peu son organisme chouchou parce que il passe beaucoup de temps là pour les maisons d'à côté. Il donne beaucoup de temps et il donne également beaucoup de temps pour notre projet de développement. On a un projet collectif qui devrait voir le jour en 2025.
Oui, tout à fait, parce que là, vous disiez que vous aviez en ce moment, il y a deux maisons. Il y a deux maisons d'à côté, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est ça.
Exact. Puis là, vous visez en avoir une troisième.
Oui, tout à fait. Actuellement, les maisons qu'on a, les gens ont chacun leur chambre, des belles grandes chambres, et les repas sont pris dans la salle commune, dans la salle communautaire. On a des préposés aux bénéficiaires en tout temps. Bien entendu, on a une cuisinière, etc. Mais c'est des chambres. Dans notre projet de développement pour 2025, ça va être des appartements. Okay. Donc, les gens vont vivre en appartement, OK, sauf qu'il va avoir sur l'étage les mêmes services qu'on offre en résidence. Donc, des préposés aux bénéficiaires en tout temps, une infirmière auxiliaire et un service de repos également, etc. Là.
Est-ce que les maisons que vous avez déjà, dans lesquelles vous êtes déjà installé et celle qui va ouvrir, vous me dites, en 2025, est-ce que c'est des choses qui ont été construites ou ce sont des bâtisses qui existaient déjà, qui ont été rénovées? Comment vous y êtes pris?
OK. En fait, les deux résidences que nous avons actuellement, c'est des résidences qui ont été construites.
D'accord.
Il y a 25 ans. Le projet de développement qu'on a, le projet qui s'appelle le collectif Amélie Fristelle, c'est une bâtisse qui est déjà existante et qui va être, dans le fond, rénovée là, pour répondre aux besoins du collectif.
Alors, est-ce que c'est comme déjà un quadruplex qui existe ou quelque chose comme ça que vous transformez?
En fait, Oui, non. En fait, ça se trouve être une bâtisse, là. La bâtisse s'appelle Émilie Fristel. C'est une bâtisse qui appartient à la congrégation religieuse.
D'accord.
Et bon, et puis donc, pendant des années, des religieuses ont habité à Émilie Fristel. Avant, jadis, ça a déjà été une école. Oh. Donc, c'est une très grosse bâtisse. Il y a 4 étages là-dedans. Là. Puis on sera pas.
C'est pas un quadruplex, là. C'est pas mal
non,
plus.
Non. Oui. C'est pas mal plus gros que ça.
Okay.
Et nous, on va prendre le 2e étage, mais il y aura également d'autres organismes là, dans le collectif. Là.
Oh,
on va avoir l'association des sourds,
est-ce que ça va être des
secondes vies.
Oui. Pardon. Donc, ça va être il va y avoir une certaine mise en commun des ressources.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on le fait un collectif, tout à fait.
Et là, la bâtisse a été, le bâtiment est connu, ainsi de suite, pour assurer les rénovations. Est-ce que votre mode de financement, comment est-ce que vous êtes organisé?
Bien là, en fait, au niveau, moi, je m'occupe beaucoup plus au niveau, le financement pour le fonctionnement,
oui.
Lorsque le projet, dans le fond, lorsqu'on va accueillir nos premiers usagers. Fait que moi, c'est plus ce volet-là que je m'occupe, en fait. Fait que ça va être avec ça s'appelle le PSOC, là, qui est le programme de subvention aux organismes communautaires.
D'accord.
Donc, c'est une subvention, dans le fond, qu'on va recevoir là, du ministère, là, pour pouvoir voir au roulement. Là. Mais c'est sûr que on a reçu un montant d'argent quand même de la Fondation Martin Matt,
okay.
Parce que Maison Seconde Vie est un organisme qui va recevoir de la clientèle TCC et AVC. Donc, c'est une clientèle qui répond tout à fait
à
la clientèle
à
de la Fondation Martin Matt.
Exact. Parce que... Revenir un peu aux services que vous offrez, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'évidemment, il y a les deux maisons d'à côté qui existent déjà, mais vous faites plus que ça.
Oui, tout à fait, parce que dans chacune de nos maisons, de nos résidences, on a 9 résidents qui y habitent. Et au-delà de ça, on a un service à domicile qu'on offre. Présentement, j'ai plus d'une 20aine de personnes à qui qu'on donne des services à domicile. C'est des gens qui sont à mobilité réduite, comme notre clientèle qu'on a en résidence, sauf que c'est des gens qui habitent dans leur appartement, qui rencontrent certaines difficultés. Et nous, nos services qu'on offre ont 3 volets. Et le premier volet, dans le fond, c'est une aide financière au niveau du loyer. On sait que la plupart de notre clientèle, malheureusement, c'est des gens souvent c'est des gens à faible revenu.
Oui, tout à fait. Fait oui,
qu'on on va le payer, dans le fond, on va leur offrir une subvention au niveau du logement pour pas qu'ils payent plus que 25% de leur revenu pour leur loyer.
D'accord.
Après ça, on va offrir également à ceux qui en ont besoin une aide pour de l'adaptation mineure dans le logement.
Oui, ça c'est important parce que surtout si le handicap est survenu à un moment donné au courant de la vie,
oui,
leur logement n'est peut-être n'est plus adapté à leurs besoins, puis là il faut qu'il y ait des transformations.
Tout à fait. Fait que des fois, ça peut être une rampe d'accès, une barre d'appui dans la salle de bain. Là. Fait que, et le 3e volet, qui est l'aide à domicile. C'est beaucoup plus au niveau, ce qui est demandé, là, c'est majoritairement, c'est au niveau du ménage. Donc, on va apporter une aide également à ce niveau-là. Puis, ça fait depuis 2015 que
vous
le
avez
service
ça.
À domicile, oh. Oui, qu'on offre aussi un service à domicile, oui, tout à fait.
Une des caractéristiques aussi, c'est que votre désir d'impliquer les résidents au niveau de la gestion.
Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr vu qu'on est un organisme communautaire autonome, on est géré par un conseil d'administration. Sur le conseil d'administration, il y a un résident par maison, par résidence, qui siège au conseil d'administration et on a un membre à domicile également qui siège sur le conseil d'administration. Donc, ces gens-là participent en fait là, aux décisions de l'organisme là, pour le mieux-être de l'organisme. On a également un comité événement, parce que lorsqu'on dit organisme communautaire autonome, on dit levée de fonds.
Ben, c'est ça. Tout à l'heure, quand je vous posais la question sur le financement, là, j'étais curieux de savoir quels étaient vos événements prévus.
Oui, on a on a un comité événement, donc on a plusieurs membres qui siègent également sur notre comité événement. Notre prochain événement sera cet été, le 26 août. Là, on va faire un épisode de blé d'Inde.
Le 26 juillet?
26 août.
Août, pardon. Oui, parce que c'est vrai que le blé d'Inde, août, c'est la meilleure saison, vous avez raison.
La meilleure saison, oui, c'est ça, il va être meilleur. Fait que c'est ça, on va faire une levée de fonds à ce moment-là, en faisant cet événement-là. Donc, ça va être une levée de fonds, puis en même temps, ça va permettre aux usagers d'inviter leurs amis, leurs familles et d'avoir une belle journée agréable avec tout le monde.
Bon, ben tout à fait, parce que c'est sûr que le projet d'une troisième maison, qui elle aussi, je suppose, est dans la région immédiate, c'est à Joliette aussi?
Oui, tout à fait.
Amélie Fristel, oui.
Oui.
Parfait. Mais vous avez toutes vos autres activités, donc la prochaine, c'est le 26 août, il va y avoir une épluchette de blé d'Inde, mais d'ici là, c'est sûr qu'on peut... approcher votre organisme, on est intéressé à voir les réalisations. C'est la maison d'à côté à Joliette. Ben, merci beaucoup, Mme Lefebvre, d'avoir été là avec nous. Ben, après 25 ans, il nous reste juste à vous souhaiter un autre 25 ans.
Merci beaucoup, là.
Merci. Restez avec nous. Après la pause, notre collègue Esther Hardy nous revient avec toutes sortes de choses dans ses cartons. À tout à l'heure.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Rebonjour. Il est maintenant 13h et 13h, c'est l'heure à laquelle l'avion virtuel, hein, on va dire ça comme ça, l'avion virtuel de notre collègue Esther Hardy atterrit dans nos studios.
Et voilà.
Et après qu'elle ait fait le tour de la planète. Bonjour Esther.
Bonjour François. Et on commence assez loin aujourd'hui.
Oui, bien j'ai vu ce qu'il y a au menu et franchement, là, vous avez... Hein? Il ne doit plus vous rester beaucoup d'air miles. Alors, non. Voilà. Allez-y. On commence. On est à Tahiti.
À Tahiti, en Polynésie française. En fait, les personnes handicapées dans le programme de Tapura, Tapura Wiraatira, parce qu'on va avoir des élections bientôt. En fait, Mme Sylvia Ching-Swa, qui est candidate dans la section 3 pour ce parti-là, elle connaît bien les handicapés, la problématique, parce qu'elle a déjà été nommée déléguée interministérielle du handicap il y a 5 ans.
D'accord.
Elle a décidé de franchir le pas et de se lancer maintenant en politique.
En politique. Et on établit après 17 000 personnes à Tahiti qui vivent en situation de handicap. Alors, il y a des demandes, là. C'est un peu comme un programme électoral.
Tout à fait. D'ailleurs, elle sait déjà la problématique parce qu'elle a contribué à ce qu'il y ait une augmentation de l'allocation adulte handicapé, un cumul de cette allocation avec les revenus professionnels, une gratuité des transports pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, il y a quand même beaucoup de priorités
oui,
qui est là.
Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont simples, mais nous, on sait qu'elles sont essentielles, comme
voilà.
La sécurisation des parkings, l'extension des aides ou des soutiens de l'État au-delà de la majorité des gens. On parle aussi de la déconjugalisation.
Merci de
voilà,
le dire.
Comme quoi il faut rendre les personnes en situation d'handicap autonomes.
Voilà.
Alors ça, c'est les élections à Tahiti.
Voilà.
Ensuite prêt, puis ça nous fait plaisir de voir que dans d'autres parties du monde, ben c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes besoins. Plus ça change, c'est pas parce que c'est plus loin que ce n'est pas pareil.
Mais c'est quand même plaisant de savoir qu'ils s'en occupent.
Voilà. Aux Indes maintenant.
Oui,
en Inde, devrait-on dire.
Oui, c'est très particulier, en fait, cette nouvelle-là. C'est que des femmes aveugles dépistent le cancer du sein de manière précoce. Toute cette histoire a commencé, en fait, dans les mains du docteur que je vais vous nommer tout de suite. C'est un Allemand, Frank Hoffmann, un gynécologue basé en Allemagne, d'ailleurs, c'est ça. Donc, qui a créé une sorte de projet pour faire le dépistage du cancer des seins par des personnes malvoyantes ou qui ont un déficit visuel complètement, en fait, qui sont vraiment aveugles, voilà. Totalement.
Parce que évidemment, comme on le sait, peut-être. Et là, je veux pas faire du mythe urbain. Non, il n'est pas vrai que les personnes handicapées visuelles nous entendons particulièrement bien ou plus ceci ou plus cela. C'est pas vrai, c'est juste qu'on est plus attentif.
Voilà.
Hein? C'est pas la même chose.
Donc, ce qu'on dit dans l'article, finalement, c'est que la majorité des médecins manquent de temps. Ils ne peuvent pas effectuer les examens de 30 à 40 minutes qui sont nécessaires pour faire la détection du cancer du sein, en fait, à chaque rencontre, là, de façon très, très minutieuse. Et ces femmes-là qui ont été formées, on dit qu'ils ont une sensibilité accrue au niveau des sens, dont le toucher, naturellement, parce que du fait qu'elles ne voient pas, ils doivent aiguiser leurs sens, comme vous disiez, il y a quelques secondes.
C'est pas parce qu'on a été exposé à de la kryptonite verte, là, c'est juste parce qu'on sert de ce qu'on a. Mais aux Indes, c'est important parce qu'il pourrait y avoir, pour des questions culturelles ou religieuses, parfois des barrières à l'examen pour les femmes qui voudraient avoir un examen préventif du cancer du sein. Alors, de savoir que des femmes handicapées visuelles ne les voient pas se dévêtir, qu'il ne s'agit non pas d'un médecin voyant mâle, parce que ça aussi, ça pourrait freiner peut-être, je dirais, le dépistage. Alors ça, c'est quand même une façon d'arriver aux fins médicales d'enrayer le cancer du sein de façon précoce aux Indes.
Mais d'ailleurs, c'est quand même très étonnant parce que ces femmes-là arrivent à détecter des masses de 10 à 20 millimètres qui sont vraiment beaucoup plus petites que, je dirais que les femmes occidentales pourraient détecter. C'est quand même très petit, là, 10 à 20 millimètres.
C'est bien, bravo.
C'est vraiment très particulier.
On revient un petit peu plus près, là, sur le chemin du retour, mais quand même, nous en sommes loin. Vous avez été en Ukraine. Vous êtes courageuse.
Ah oui, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup touchée, d'ailleurs. C'est que le Forum international de réadaptation s'est déroulé à Lviv. Comment le dites-vous?
Lviv,
quelque chose comme ça. En fait, c'était le 12 avril dernier. Ce Forum international-là de réadaptation s'est tenu dans l'ouest de l'Ukraine. Et la veille, le centre de réhabilitation moderne Unbroken a été inauguré dans cette même ville grâce aux efforts communs. Et puis d'ailleurs, il y avait des ambassadeurs d'honneur à ce projet-là, des stars internationales, dont Sting,
ben oui,
Trudy Styler, Richard Branson et Howard Buffett pour inaugurer tout ça. Parce que c'est quand même un grand apport, là. Le centre ultra-moderne de prothèses, de chirurgie réparatrice, de rééducation et de soutien psychologique pour les victimes de la guerre.
Oui, parce qu'on le sait, c'est terrible, mais dans tous les conflits armés, une des conséquences, c'est que malheureusement, beaucoup de gens perdent l'usage de membres ou perdent des membres carrément, là, à cause de toutes les blessures, les mines antipersonnelles et toutes sortes de choses affreuses. Chaque conflit armé laisse dans son sillage beaucoup de gens qui doivent tout d'un coup composer avec des situations handicapantes. Alors que ce centre de réhabilitation Unbroken a été inauguré donc à Lviv, c'est une excellente nouvelle.
On espère que ça va
mettre un baume un peu sur la misère de la guerre, si on veut.
Oui, puis ceux qui se battent présentement en première ligne, sachant qu'on va prendre soin d'eux après le combat, c'est quand même un petit baume, on peut dire.
C'est fort bien. On vient de faire une étude au Connecticut.
Oui, en fait, c'est à l'Université Yale qui finalement, aux États-Unis.
Prestigieuse.
Donc, on s'est rendu compte par ce genre de grande enquête que penser positivement au vieillissement, donc avoir une vision positive face à notre vieillissement personnel, aide à inverser le déclin cognitif. C'est quand même étonnant d'entendre ça, hein? Donc, on dit que pour vivre en bonne santé, on peut penser positif, selon une récente étude réalisée par Yale et publiée dans le JAMA Open Network, les patients atteints de troubles cognitifs légers.
Donc, ça va être comme des pertes de mémoire,
des petites choses comme celle-là.
D'accord.
Donc, dès que les personnes pensent positivement au vieillissement, ils sont plus susceptibles de récupérer leur mémoire.
Oh, c'est comme si d'envisager le vieillissement ou ça nous amenait, selon le point de vue que l'on adopte, si on est défaitiste, puis si on pense qu'on...
Tout va toujours mal aller, de pire en pire.
On déprime, et ça, nos facultés cognitives, ben, vont dans la même direction.
Voilà.
Alors que si on est confiant dans l'avenir, tout d'un coup, ben, on recouvre la mémoire, façon de parler, ou au moins elle ne se détériore pas aussi vite.
Exactement. Et puis, en fait, cette enquête-là, cette étude-là a été faite auprès de 1716 personnes, 953 femmes, 763 hommes, qui ont tous une déficience cognitive légère qu'on appelle MCI. Donc,
et puis, ils avaient un âge moyen quoi de...
De 77,8 ans, donc presque 80 finalement.
Ben, on va dire 78 pour arrondir. Voilà.
Voilà.
Vous voulez arrondir à 80, si vous pouvez bien, là. Mais,
je suis généreuse.
On va avoir besoin de travailler sur notre perception positive.
Voilà. Donc, pour éviter la maladie d'Alzheimer, ça peut être très intéressant d'entretenir des pensées positives.
Donc, il faut être positif, il faut envisager l'avenir d'une façon, je dirais...
Optimiste, peut-être.
Oui, optimiste.
Hein?
Et non pas de se sentir écrasé. Ou condamné.
Condamné, voilà.
Parce que là, on se referme sur nous-mêmes, notre esprit devient moins ouvert, moins
c'est
vif.
C'est ça, plus hermétique à la situation.
On peut faire ça, puis jouer au Scrabble aussi.
Oui, c'est bien, en fait,
c'est très bon.
Jouer au Scrabble, c'est une façon de garder l'espoir.
Exact. Hein? Ça est le bridge.
Ah oui, c'est vrai. J'avoue que je préfère le Scrabble personnellement.
Le bridge, c'est une autre affaire. maintenant... Après avoir fait ce saut brièvement au Connecticut à l'Université Yale, on revient sur nos pas, on retourne en Europe.
Oui, en France, en fait. On a ici M. Victor Pierrel qui veut être le premier paraplégique à gravir le Mont Blanc.
Oh.
Le Mont Blanc est dans les Alpes.
Le premier sommet d'Europe.
Ben voilà.
Comme on l'apprend en géographie.
C'est ça. En fait, c'est un membre de l'équipe de France de ski alpin d'Handisport. Donc, il a créé ce projet-là qui est très ambitieux, on va le dire, c'est certain. Il a monté une expédition pour être le premier paraplégique à se hisser sur le toit des Alpes. C'est ça, comme vous dites, le plus haut mont. Donc, ça demande toute une logistique, 12 personnes qui doivent l'accompagner. Il y a déjà eu une première tentative, ceci dit. L'expédition avait eu lieu au printemps 2022, donc il y a environ un an. Ça leur a permis de tester cette cordée inhabituelle en conditions réelles. Mais malheureusement, les conditions météo et une blessure détectée sur les membres inférieurs de Victor au dernier moment ont fait en sorte que, ça a mis fin à ses rêves pour cette année-là.
Mais là, il se reprend. Donc, après l'échec de l'expédition de 2022, maintenant, on envisage de remettre ça.
En fait, ils vont être, d'après ce que je comprends, 11 pattes et 7 alpinistes.
D'accord. Parce que je suppose que pour... Que le rêve de notre ami Victor Pierrel se réalise, il va falloir utiliser différents équipements. On connaît ce dont on sert parfois ici au Québec pour faire de la montagne de l'Andy randonnée. Hein? Il y a différentes formes de gondoles ou de brancards qui peuvent être utilisés, brancards,
On
peuvent être utilisés. Alors, je suppose que ça va être quelque chose du même type.
Probablement,
mais
j'imagine,
On parle de milieu qui est quand même hostile.
Oui, c'est quand même assez difficile. Donc, c'est un grand défi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler après qu'il ait réussi.
Oui, bravo, on va suivre ça de près. En France, toujours... il y a eu une indexation ou un rehaussement, une hausse des allocations.
Aux adultes handicapés, ce qu'ils appellent le AAH chez eux. Donc, comme d'autres aides disponibles en France, ce taux-là a été revalorisé de 1,6% le 1er avril.
Moi, si je peux me permettre de le dire, 1,6%, c'est des peanuts.
C'est
parce
vrai.
Parce que si on regarde où se situe l'inflation en ce moment... pas juste ici, mais en Europe, c'est tout à fait vrai. Là, on est beaucoup plus au-dessus de 7 ou 8 % que de 1,6. Oui,
c'est vrai.
Moi, je vois ça comme une mauvaise nouvelle, savez-vous.
D'une certaine façon, vous avez tout à fait raison,
parce que
François.
Ça me dit qu'il va y avoir un appauvrissement en termes relatifs pour les adultes handicapés en France. Moi, si j'étais le gouvernement, je ne me pèterais pas les bretelles à 1,6.
Tout à fait.
Ça me semble pas être...
Parce qu'on
est à la hauteur.
On est passé en fait de 956 euros à 971, qui est autour de 14 euros là, finalement.
Ben, oui, puis c'est 971, bon, évidemment, il faut savoir quel est le coût de la vie et ainsi de suite. Ouais, 971 euros au taux de change actuel, ça fait quoi, là, 1400 $?
À peu près. À peu près,
quelque chose ouais. comme ça. Mais moi ce qui me tarabiscote, là, c'est que c'est simplement 1,6 de hausse, ça me semble...
Oui, c'est minime.
Bien peu de choses.
C'est minime. Hein? Donc, voilà. on va espérer
Nous sommes bien peu de choses, dit-on, mais on peut penser aussi que l'allocation à 1,6, là.
Oui, c'est pas énorme. Donc, on va espérer que le gouvernement se ravise pour l'année prochaine, au moins.
Ben oui, hein? Tout à fait. Alors, on souhaite aux personnes en situation de handicap et à leurs proches en France de monter aux barricades.
Oui, voilà. ils sont déjà très engagés, il faut le dire.
Il faut se faire entendre. Tout à fait. Ben, on fait une petite pause, puis on revient au pays. De retour au Canada et beaucoup au Québec, de fait, on a toutes sortes de nouvelles, de militantisme et de consultations, et je pense que c'est très bien d'en parler. Puis, comme ça, on voit qu'on n'est pas passif devant les choses qui nous courroussent.
Oui, voilà, monsieur.
Voilà, Québec est interpellé.
Pour en faire plus, pour intégrer les travailleurs handicapés, en fait, au milieu du travail, c'est M. Stéphane Thériault, qui est le directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées, donc on appelle le CQEA, qui estime que la simple indexation de l'enveloppe du programme de subvention aux entreprises, dont le budget est de 122 millions pour 2023-2024, ne permettra pas la création de nouveaux emplois pour les personnes vivant avec un handicap. Donc,
parce que, en fait, le budget a été indexé dans le dernier... l'enveloppe destinée à la création ou soutien d'emplois pour personnes handicapées a été augmentée dans le dernier budget, mais augmentée simplement d'un taux d'indexation.
Oui, exactement comme les Français, ce qu'on parlait tout à l'heure.
Ouais.
En fait,
voilà.
C'est que normalement, les entreprises ont la possibilité d'ouvrir des postes temporaires, notamment quand survient une possibilité de développement d'affaires ou un nouveau contrat. On a habituellement la flexibilité de pouvoir embaucher, selon M. Thériault. Mais malheureusement, cette année, dans la mouture du programme qui a été présenté pour la prochaine année, cette possibilité est rayée de la carte. Le programme est gelé.
En fait, les gens qui sont employés continuent d'être employés.
Mais il n'y aura pas de nouveaux postes ouverts parce que l'enveloppe budgétaire ne le permettra pas.
Parce que ça explique entre autres, cela s'explique entre autres par l'augmentation du salaire minimum.
Oui.
Et alors évidemment, ça accapare une grande partie des sommes allouées. Alors si d'une main le gouvernement augmente le salaire minimum, puis là on peut, dépendamment du point de vue, applaudir cette mesure. Cependant, en faisant ça, en fait, les personnes handicapées qui sont déjà en milieu d'emploi vont recevoir un petit peu plus d'argent pour leur travail. Leur rémunération va être plus généreuse. Généreuse n'est peut-être pas le bon terme. Va être augmentée. Mais ce n'est que cela. Donc, il n'y a pas d'autres postes créés.
Malheureusement, c'est le cas.
Et on comprend tout à fait M. Stéphane Thériault, parce qu'on l'a dit à maintes et maintes reprises à cette antenne, alors qu'on vit une situation mondiale économique de pénurie de main-d'œuvre, il y a toute une population de personnes en situation de handicap, ailleurs, mais aussi au Québec, entre autres, prêtes à travailler, capables, formées, qui ne demandent qu'à travailler dans toutes sortes de domaines.
Puis d'ailleurs,
Cette ressource-là est comme... laisser de côté.
Voilà, inutilisé totalement. Puis on le dit clairement, en fait, il y a des statistiques qui ont été compilées à partir des rapports annuels des entreprises adaptées qui indiquaient, en outre, que moins de 4 % des personnes handicapées admises en entreprise adaptée ont quitté leur emploi.
Les gens sont...
ils tiennent à leur travail.
On n'est pas déconnecté, là. Si on vit en situation d'handicap puis on finit par décrocher un emploi, bien, on sait que nos probabilités ne sont pas les mêmes que les personnes valides, là. On ne se contera pas d'histoire. Et puis, pour une fois qu'on a un emploi, bien, on va le garder, puis on est heureux d'avoir une autonomie financière, heureuse d'avoir une autonomie financière. Alors, l'assiduité est plus élevée chez ce type d'employés, les personnes en situation de handicap. Et il y a plein de gens qui ne demandent que ça. Les entreprises, c'est marqué partout, nous embauchons.
Ben, mais voilà.
Embaucher.
On manque de travailleurs partout.
Encore faudrait-il que le gouvernement suive la parade et bonifie cette enveloppe-là. Surtout que le gouvernement a tenu un discours comme quoi c'était une des avenues possibles. Alors, il y a des incohérences. On espère que M. Thériault sera entendu et que les choses iront du bon côté.
Ouais,
voilà.
Et que la situation soit corrigée à moyen terme, à court et moyen terme.
Pendant que les personnes handicapées ne trouvent pas les emplois, le gouvernement, lui, ça, il faut quand même le reconnaître, lance une consultation.
Sur la pauvreté. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, une consultation publique pour établir le prochain plan de lutte à la pauvreté est organisée par le gouvernement du Québec.
Ah, donc, c'est comme aujourd'hui, là, 17.
Et voilà.
C'est aujourd'hui que c'est lancé.
À partir de maintenant, oui.
Vous l'avez entendu à Canal M, sans détour, avant tout le monde. Retenez bien ça.
Chantal Rouleau, en fait, qui est responsable de la solidarité, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, a fait un point de presse la semaine dernière à ce sujet-là. Donc, la consultation se faisant maintenant, on espère que ça va changer la situation.
Alors, c'est une consultation qui sera d'abord effectuée en ligne, où un sondage au sujet de la pauvreté sera accessible. Le mot « accessible » ici, soulignons-le au crayon gras. Pendant la même période, il sera aussi possible pour les organismes, entreprises, associations et tous les membres de la société civile de déposer un mémoire. Pour le mois de juin seulement, des groupes de discussion ciblant la population à faible revenu et les personnes qui se reconnaissent comme vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Hein? Alors, les personnes en situation d'handicap, là, c'est Voilà, on est dans le créneau. La consultation publique constitue une occasion de saisir et de repenser la solidarité. Alors, bon, on remercie la ministre Rouleau d'avoir mis cette initiative en branle. On espère évidemment que tout ça aboutisse sur une politique cohérente. Qui puisse être effectivement mise en branle. Puis après ça, sur la volonté publique, politique, hein, d'ouvrir les cordons de la bourse, hein, voilà, et de débourser suffisamment d'argent pour le faire. Voilà. Tant qu'on est dans la vertu, tout le monde s'entend.
Ce sont des grands souhaits qu'on espère.
Quand la vertu doit se transformer ou aboutir en des gestes concrets, c'est parfois là où on s'enfarge. Mais enfin, on ne tapera pas sur le clou avant même de l'avoir posé. Nous allons espérer que tout se fasse entendre.
Alors, oui.
Cette grande consultation publique du gouvernement sur le sujet de la pauvreté, c'est maintenant. Faites-vous entendre.
Mais d'ailleurs, il y a des gens à Salaberry de Valleyfield qui, eux, se font entendre.
Oui, tout à fait, tout à fait.
En fait, c'est les résidents d'un CHSLD qui ont manifesté pour de meilleurs soins. C'est un centre d'hébergement, en fait, qui s'appelle Dr Aimé Leduc.
Oui.
Un centre d'hébergement de soins à longue durée. Donc, un CHSLD.
Ça, c'est à Salaberry de Valleyfield.
Voilà. Donc, écoutez, on a carrément manifesté sur la rue des gens qui étaient en fauteuil roulant, accompagnés d'ailleurs du personnel traitant.
Oui, tout à fait. Donc, c'est toute la communauté du CHSLD qui s'est élevée contre un manque de moyens.
Un manque de personnel, un manque de moyens, en soulignant sincèrement que... En fait, ils ont déjà de très bons soins, mais ils n'ont juste pas assez de personnel. C'est simple comme ça. Ils en ont vraiment besoin de plus.
D'accord. Quand ça vient à la fois des bénéficiaires et du personnel du CHSLD, ben, c'est assez criant.
C'est clair.
On espère que qu'ils aient eu, qu'ils aient eu quand même un peu une oreille attentive là, et que tout ça aboutisse. Ben, des fois, c'est ça. Il faut prendre... En main de façon pacifique et civile, mais tout de même visible et sonore, hein, nos revendications.
Je trouve ça absolument magnifique de voir ça, moi, des gens qui manifestent comme ça.
Voilà, tout à fait, pourquoi pas.
C'est heureux.
Trisomie 21, regroupement pour la Trisomie 21 qui organise une journée d'atelier d'information sur la thématique du vieillissement pour les personnes qui vivent avec une Trisomie 21. C'est important parce que c'est une réalité qui est plus nouvelle. Les personnes qui vivent avec une trisomie 21 ont malheureusement une espérance de vie qui parfois est assez courte.
Ouais.
Mais avec les soins, la science, ainsi de suite, on se retrouve maintenant dans une nouvelle problématique où on doit apprendre à vieillir, si je peux dire, avec une trisomie 21. Alors, cet atelier-là, est offert par regroupement T21.
RT21, en fait, ça va avoir lieu le samedi 13 mai de 9h à 16h à l'hôtel universel du 5000 rue Sherbrooke-Est.
Oui.
Donc, ça peut se faire aussi en Zoom. Donc, il suffit de s'inscrire pour pouvoir y participer. Et c'est gratuit. Soulignons-le, c'est important. Il y a trois blocs. Donc, c'est un choix d'atelier, mais il y a trois blocs, dont un premier qui parlera des ressources intermédiaires en hébergement, des milieux de vie de qualité, qui sera donné en fait par M. Jean-Philippe Lompré, directeur des services aux membres de l'ARIHQ.
Il y aura un autre bloc qui va porter sur la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Et un dernier qui parle du deuil. Parce que là aussi, quand on vieillit, les gens qui nous entourent, malheureusement, nous quittent. Puis ça, c'est une charge émotive qu'il faut peut-être... apprendre à intégrer ou à gérer. Les inscriptions, parce qu'on nous dit « dépêchez-vous ».
Oui,
voilà. Inscription, c'est à trisomie.qc.ca. C'est là que l'on va pour s'inscrire. Le temps file. Notre stagiaire, Jennifer Andou, nous dit « c'est bientôt la fin ». On remercie aussi Mathieu Tessier à la régie. Notre chroniqueuse partout dans le monde, Esther Hardy, notre recherchiste Claire Guérin. Ici François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine pour un autre Sans détour.